La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot.
Bonjour Jocelyne.
Bonjour Étienne.
Alors nous sommes en train de présenter ton livre « Les couples phares de la Bible » paru aux éditions Salvatore. Et parmi ces couples phares, il y a un couple très particulier qui s'appelle Jacob et Rachel. Et on va voir qu'il est compliqué parce qu'il y a Rachel a une sœur ou peut-être même une sœur jumelle pour la tradition juive qui s'appelle Léa.
Et qui est son aînée, c'est-à-dire
qu'elle est la cadette, mais que le lien fusionnel que ces deux sœurs entretiennent peut que se déchirer dès lors qu'elles vont entrer en compétition pour le même homme qui s'appelle Jacob.
Exactement. Et c'est ce qui va advenir hein, quand l'époux paraît. Chaque jour que Dieu fait, Jacob, qui a reçu l'ordre de faire 7 ans de travail pour payer la dot et pouvoir épouser Rachel, est de plus en plus épris de Rachel. Et il n'a pas un regard, il ne la voit pas, elle est transparente, Léa. Et il ne se doute pas que Laban, pour lui-même, envers lui-même, s'est dit « Si dans 7 ans, Léa n'est toujours pas mariée, c'est elle qui épousera à son insu et à la faveur de la nuit
Jacob.
Et malgré tout, si Jacob persiste à vouloir Rachel, et il la veut, ça c'est évident, il l'obtiendra 7 jours plus tard, délai nécessaire aux noces, en échange de 7 autres années de travail, toujours gratis, pour moi. Force est de constater que Jacob, qui avait su tromper Isaac et Ésaü pour arriver à ses fins, trouva en Laban un maître S-ruse qui l'a littéralement entourloupé.
Donc Jocelyne, tu t'imagines 14 ans à travailler pour pouvoir obtenir Rachel. Il fallait vraiment que cette femme Rachel, la brebis, la bergère, fût divinement belle de corps et d'âme pour inspirer à Jacob de tels sentiments et un tel sacrifice. 7 ans d'un dur labeur pour constituer la dot lui permettant d'en faire son épouse, laps de temps qui parut à Jacob, écoute bien, comme quelques jours, tellement il l'aimait, nous dit le texte.
C'est incroyable, au chapitre 29 de la Genèse.
Oui. Ça, les hommes et les femmes devraient s'en inspirer.
Hein. Oui, oui.
La patience, savoir attendre. Alors toutefois, une fois les sept ans accomplis, Jacob s'empresse de réclamer son dû à Laban. « Accorde-moi ma femme, car mon temps est accompli, et que j'aille vers elle. » Jocelyne, en hébreu, le « j'aille vers elle », c'est hyper trash.
En fait.
C'est vraiment le désir, il est dans le feu de l'action.
Oui, c'est à la limite de la trivialité, tant il la désire. Il croit enfin toucher au but, hein, notre Jacob. Mais là-bas, on a décidé tout autrement. C'est Léa qui l'introduit le soir des noces sous la tente de Jacob, à la faveur de la nuit noire.
Une nuit d'encre.
Exactement. Au matin, l'aurore caresse, en passant par les trous de la tente, hein, caresse de son éclat les 12 yeux de Léa. Et Jacob, en l'apercevant, bondit hors de la tente, fou de rage. Il saisit son beau-père au collet, le secoue comme un prunier, et me dit « Que m'as-tu fait là ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ?»
Et Laban répond catégoriquement « Ce n'est pas l'usage dans notre contrée de marier la plus jeune avant l'aînée. Mais achève cette semaine de noces et je te donnerai aussi l'autre fille comme prix du service que tu feras chez moi pendant encore 7 autres années. » On pourrait dire, Jocelyne, que c'est l'arroseur arrosé, le dupeur dupé à malin, malin et demi.
C'est ça.
Mais de même qu'Ésaü avait crié en vain à la forfaiture, de même, les cris de Jacob ne furent d'aucun effet sur son beau-père. Léa était son épouse, quoi qu'il en soit, et ce, avant Rachel, quoi qu'il lui en coûta. Tout maître à son disciple, Jocelyne, et qui se sert de la ruse, prend le risque d'en faire les frais à son tour. Car Dieu fait toujours justice en toutes nos voies.
Eh oui. Toutefois, Étienne, je me permets d'attirer ton attention. Une question se pose. Comment Laban serait-il parvenu à ces faits sans la complicité active de ces deux filles?
Oui, pas seulement de Léa. Évidemment que Rachel était dans la boucle.
Oui. Léa, bien sûr, tu le dis, elle va souscrire au projet de son père, c'est compréhensible, car il lui permet...
C'est son intérêt.
Car il lui permet d'échapper à la destinée qui, depuis toujours, la désole. Mais Rachel, comment n'avait-elle pas vendu la mèche à Jacob pour le prévenir du piège ourdi contre lui? Pourquoi se serait-elle fait la complice d'un jeu qui la spoliait? Les rabbins ont ainsi échafaudé de nombreuses hypothèses à ce sujet.
Alors tout d'abord, Rachel, Pour certains, elle aurait eu vent de la substitution dont elle ferait les frais. Elle s'en serait ouverte à Jacob afin de convenir avec lui d'un code de reconnaissance sous la tente, dans le noir, lui permettant de pouvoir démasquer la fraudeuse,
oui,
Léa.
Léa qui n'aurait pas connaissance.
Alors, en quoi consistaient les signes convenus entre Rachel et Jacob? La petite histoire juive s'en fait l'écho. L'usage voulait que pour stimuler l'entrain des fiancés, lesquels souvent se rencontraient pour la première fois lors de la nuit de noces, eh bien la fiancée devait vaincre sa pudeur et son appréhension en tordant successivement l'orteil, le pouce et le lobe de l'oreille droite de son promis, dans le but d'enchasser trois démons qui pouvaient y loger, réputés hostiles à l'union des corps,
oui,
l'union des époux.
Oui, c'est un peu tordu, mais ça peut fonctionner. Hein.
En tout cas, c'est au moyen de ce rite de purification, validé par le livre du Lévitique, Jocelyne,
au chapitre 14.
Chapitre 14, verset 14 d'ailleurs, que l'idée c'était pour Rachel d'authentifier sa présence auprès de Jacob dans le lit nuptial. Avec ce code, t'es sûr que c'est moi. Cependant, en assistant aux apprêts dont Laban avait ordonné en grand secret qu'on entoure Léa, sachant que celle-ci paraîtrait voilée jusqu'à son entrée sous la tente de Jacob, eh bien, il faut penser que peut-être là, cette généreuse Rachel, eh bien, elle a été saisie de pitié en voyant son aîné aux yeux doux, seul, qui n'était pas marié. Et donc, ignorant le code secret, Jacob devinerait le subterfuge et sa colère retomberait d'abord sur elle avant de se retourner contre Laban qui, lui, s'en moquait.
Alors, elle s'en ouvrit donc à sa sœur, Léa, sans pour autant gagner sa reconnaissance. En retour, nous le verrons. Murée dans un silence qui la protégeait, Léa appliqua scrupuleusement le dit code de tourner l'orteil.
Le pouce et le lobe de l'oreille.
Exactement. À tel point que Jacob crut voilà, que c'était Sésame, ouvre-toi. Hein, il n'y vit que du feu.
Évidemment, c'était Rachel qui pouvait avoir le code parfait.
Exactement. Ainsi, la déesse de la nuit, avec ses ombres et ses sortilèges, était venue en aide à l'infortunée Léa. Et hélas, aux premières lueurs de l'aube, quand le jour reprenait ses droits, l'évidence s'était fait jour. Dans les bras de Jacob, c'était Léa.
Alors, il est à noter que l'abnégation de Rachel ne passa pas inaperçue aux yeux de la postérité. Le prophète Jérémie s'en fait l'écho en l'honorant du titre de mère d'Israël. Il s'écrit « Une voix s'élève dans Rama ». Rama, c'est le diminutif de Rachel, et c'est le nom aussi de Bethléem Ephrata,
oui, c'est vrai,
où se trouve d'ailleurs le tombeau
de
Rachel, parce que c'est là qu'elle va mourir.
Toujours, oui.
Et il continue. Plaintes et amers sanglots s'élèvent dans Rama. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Or, dit l'Éternel, que ta voix cesse de gémir, Rachel, car ils reviendront du pays de l'ennemi.
Oui, c'est juste, c'est une prophétie du retour d'exil. Rachel, donc, aurait obtenu cet honneur d'être appelée mère d'Israël parce qu'elle a plaidé en faveur de sa sœur. Le Midrash, la tradition juive, glose ce passage, mettant en scène la brebis priant Yahvé face au temple détruit et disant « Je n'ai pas revendiqué ma place d'épouse. J'ai aidé Léa, ma sœur, afin qu'à nous deux, nous puissions édifier toute la maison d'Israël. Alors, Seigneur, aie pitié aussi. Pardonne à ce peuple issu de Jacob. » Comme elle est noble, l'attitude de Rachel envers Léa, attentive à lui épargner la honte en vue de l'édification de tout un peuple.
Ouais, c'est d'autant plus méritoire que les rapports entre les deux sœurs sont loin d'être idylliques et que la jalousie mutuelle mine leur relation, aiguillonnée par le choix de Dieu qui favorise Léa à travers la fécondité, justement, parce qu'elle n'est pas l'aimée, le coup de cœur de Jacob, tandis que Rachel, eh bien, elle va vivre la stérilité. Elle est certes celle qui est aimée, mais elle est aussi celle qui ne donne pas les enfants. Un peu à l'instar d'ailleurs des matriarches, hein.
Oui,
Sarah,
stérile,
c'était pareil,
hein, c'est vrai,
hein. Rebecca, pareil, longtemps en mal d'enfant. On se souvient des 20 années de stérilité de Rebecca, par exemple. Hein. Au fil du temps, Léa se persuade que les quatre premiers fils qu'elle a donnés à Jacob, eh bien, vont finir par lui attacher le patriarche Jacob sans partage. Mais c'est peine perdue, au regard de la fascination que Rachel exerce sur Jacob.
Oui, très vite, la guerre entre les sœurs va s'intensifier par servantes interposées. La première, Rachel, a une idée. Elle songe à agir comme Sarah avait fait envers Agar, sa servante égyptienne, espérant obtenir par elle des fils par le truchement de sa servante Bila. Donc Bila, Rachel va la donner
Jacob.
À Jacob, et elle va mettre au monde le Dan. Son nom vient de Din, justice, que Dieu venait de rendre justice. C'est Rachel qui le baptise comme ça. Lui rendre justice en lui procurant un fils, puisqu'elle ne pouvait pas en avoir. Et de la même façon, elle va obtenir Naphtali, qui signifie « j'ai lutté en substance contre ma sœur et je l'ai emporté ». Ce succès va inquiéter Léa à son tour, parce qu'elle se dit « elle va me rattraper là, avec sa servante ». Donc, elle va, elle aussi, avoir la même idée, puisque Jacob a déserté sa couche. Voyant qu'elle a cessé d'avoir des enfants, nous dit la Genèse, elle va décider de recourir à son tour à ce subterfuge en jetant sa servante Zilpa dans les bras de Jacob, aux fins d'obtenir deux autres fils qui vont être Gad et Asher, et d'ajouter ainsi
deux autres enfants à son palmarès.
Donc elle est à la tête de six maintenant. Six fils, et alors là elle se dit, bon, c'est gagné, je suis indétrônable.
La pauvre Rachel, malgré ses deux enfants de substitution, on pourrait dire, est ulcérée et elle comprend que l'adoption ne suffira pas à la légitimité en tant qu'épouse auprès de Jacob. Il lui faut à tout prix un fils issu de ses entrailles. Et elle ne cesse de se lamenter auprès de Jacob en lui disant « Fais-moi avoir aussi des enfants ou je meurs ». Et Jacob se fâche. Il lui dit « Mais est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité ?» Rachel accuse le coup, mais elle ne s'incline pas. Son tour va venir. À ce propos, d'ailleurs, Jacob n'a-t-il... Pourquoi, on pourrait se poser la question, pourquoi Jacob n'a-t-il pas intercédé en la faveur de Rachel, comme Abraham et Isaac l'avaient fait pour obtenir du Seigneur que leurs épouses enfantent? Eh bien, la raison en remonte au cri et aux sanglots versés par Jacob après le baiser volé à Rachel auprès du puits. En ces instants, on peut penser qu'il ne pleure pas seulement de joie d'avoir trouvé son âme sœur, mais qu'il pleure aussi car il voit prophétiquement, il perçoit que cette union sera tragique. L'union de leurs deux destins communs, une sorte d'amour contrarié, exilé du bonheur auquel il aspire, et il pleure en voyant aussi la stérilité de son coup de cœur, Rachel. Quelle ironie du sort, Jocelyne, celle qui veut à toute force des enfants de sa chair, ou qui, à défaut, jure en mourir, c'est aussi celle qui ne survivra pas en donnant la vie pour la seconde fois. Effectivement, Rachel va avoir donc Joseph, premier fils de Jacob, le 11e, et le 12e, ce sera Benjamin. Et en accouchant du 2e, Rachel mourra en couche. Alors, véritable héroïne romantique, hein, cette Rachel.
Oui, exactement, elle a un destin incroyable. Si, je dirais que si Dieu a tardé à se souvenir d'elle, c'est que Jacob n'a pas encore fini de payer sa dot. En fait, 14 ans ne sont pas passés. Donc, on peut pas acheter avant d'avoir fini de payer. Dans sa justice, le Très-Haut met à profit ce délai pour combler la mesure de Léa, laquelle portait le lourd fardeau de n'être pas aimée, nous dit la Genèse au chapitre 29. Et voici comment. Ruben, qui est l'aîné de Léa, au temps de la moisson des blés, revient un jour des champs avec à la main des doudaïm. Alors évidemment, tu ne sais pas ce que c'est, je te traduis. Ce sont des pommes d'amour. Mais en réalité, ce sont des mandragores qui sont nettement plus funestes. Doudaïm est un mot qui se construit sur la racine dodi, aimé. Et oui, c'est ça. Comme le nom du bien-aimé du Cantique des Cantiques. Alors, Ruben, sensible aux larmes de sa mère, à son dépit d'être délaissé par son père, va s'empresser de les lui apporter. Les mandragores ont une réputation sulfureuse. Certains disent qu'elles sont le fruit de la semence des pendus, car elles ne pousseraient qu'à l'ombre des gibets. En botanique, il s'agit d'une tubéreuse originaire des régions chaudes, dont la racine bifide, qui porte deux pieds, évoque le bas du corps humain. certains bulbes, d'ailleurs, de cette plante peuvent même ressembler à des visages grimaçants. En fait, c'est facile de personnaliser hein, la mandragore. On les a parés de toutes sortes de vertus et beaucoup utilisés en sorcellerie. Et voilà où le bât blesse. Mais ce qui les distingue surtout, ce sont les propriétés aphrodisiaques qu'on leur prête, car elles exhalent des senteurs puissantes capables d'aiguiser le désir. Pour cela, on en glissait autrefois dans le lit des femmes souhaitant être enceinte afin de raviver le désir peut-être un peu endormi de leur mari.
Donc, Ruben, fils aîné de Léa et Jacob, voyant la tristesse profonde de sa mère, prend des mandragores et pense qu'elles sont à même de provoquer chez son père un retour de flamme dont sa mère se languit, depuis que Jacob ne quitte plus la tente de Rachel, où babille gentiment Dan et Nephtali sous le regard attentif de la servante Bila. Mais voici qu'ayant eu vent de la trouvaille, Rachel vient les réclamer ses mandragores à sa sœur Léa, en lui rappelant qu'elle a eu pitié d'elle au soir de ses noces. N'est-ce pas le moment aussi de lui rendre la pareille en l'aidant à avoir elle aussi un fils grâce aux précieuses mandragores ? Alors Léa se fâche. N'est-ce donc pas assez que tu m'aies pris mon mari, que tu me prennes aussi mes mandragores ? C'est alors que Rachel a l'idée de proposer un marché à sa sœur. Pour elle-même, les mandragores, contre la nuit prochaine passée par Jacob avec Léa. Alors Rachel sait d'avance que ce dernier lui reviendra, d'autant plus vite que les précieuses mandragores auront fait leur ouvrage et qu'elle en obtiendra enfin ce fils tant désiré.
Ce dialogue entre les sœurs jalouses, épouses du même homme, est à la fois pathétique et burlesque. Laban et Jacob avaient discuté du sort de Rachel sans lui demander son avis. À son tour, Rachel règle avec Léa le sort de Jacob sans le consulter davantage. À son retour des champs, le patriarche obtempère à la demande de Léa, venu exiger son dû. Coup sur coup vont naître Issachar, le cinquième de ses fils, puis Zabulon et même une fille, Dina, dont nous entendrons parler plus loin, dont les rabbins pensent qu'elle était même sa jumelle.
Ainsi, Léa peut se vanter d'avoir donné à elle seule six fils à Jacob, plus deux autres, Gad et Asher, à travers sa servante Zilpa. Elle est donc incontestablement la plus féconde de toutes les matriarches d'Israël. Rachel aurait-elle conclu un marché de dupes en échangeant les mandragores contre cette nuit où Jacob fut pris à gage par Léa ? De toute évidence, si les mandragores tinrent leur promesse, c'est d'abord au bénéfice de Léa. D'emblée, leur échange permit à celle-ci de concevoir cette même nuit et par la suite deux rejetons mâles portant à 10 sa contribution aux 12 tribus d'Israël.
Oui, elle raflait la mise.
Quant à Rachel, qu'avait-elle besoin de ce procédé douteux puisque le temps n'était pas encore échu, à savoir 14 ans, où Dieu allait se souvenir d'elle pour l'exaucer et la rendre féconde ? Dieu, Jocelyne, déteste la magie qui scelle toujours un pacte avec le diable et avec la mort.
Exactement. Et un Midrash, la tradition juive, prétend néanmoins que c'est en raison de sa générosité proverbiale envers sa sœur Léa, pour lui permettre de conforter le nombre des fils de Jacob, que le Seigneur à son tour lui accorda Joseph, le 11e fils, mais le premier pour elle, le préféré de Jacob, son aîné en fait de cœur. Toutefois, Joseph signifie... C'est le nom que lui a donné Rachel. Enlevé, Asaf.
Enlève-moi la honte.
Enlève-moi la honte.
De ne pas avoir d'enfant.
Exactement. Et aussi Yassaf, c'est-à-dire ajouter. Mais ajoute-moi encore un fils.
C'est-à-dire qu'elle vient d'accoucher et elle en veut un deuxième.
Exactement. C'est-à-dire que si tu Asaf, ça veut dire enlevé, donc c'est le signe moins. Et Yassaf, ça veut dire ajouter, ça veut dire plus. Il a donc un nom complètement oxymorique, paradoxal.
Soustraction et une addition en même temps, comme s'il était mis en pièces.
Exactement. En fait, sa demande est lourde pour elle de conséquences. Que Dieu m'ajoute un fils, elle a dit. Eh bien, ce fils, Benjamin, va lui coûter la vie.
Oui, puisqu'elle va, on l'a vu...
Expirer en lui donnant le jour.
Mourir en couche. Alors, quant aux mandragores, Doudaïm, elles jouent un rôle considérable dans la naissance de Joseph, le quatrième patriarche, celui qui va sauver ses frères de la famine en Égypte. La Bible de Jérusalem traduit mandragore par pomme d'amour, expression plus évocatrice et surtout moins sulfureuse, ce qui n'excuse en rien Rachel, peu regardante envers les pratiques magiques, illicites et dangereuses, dans la mesure où elles accréditent l'idée que les événements peuvent échapper au regard de Dieu, donc il n'est ni maître du temps, ni maître de l'histoire. Et malgré les apparences, c'est faire à la bergère un bien mauvais procès que les faits démentiront, puisque c'est la naissance de Joseph qui ouvre les yeux de Jacob sur l'absurdité de son exil en terre païenne et qui va lui donner la force de revendiquer enfin sa liberté auprès de Laban pour pouvoir regagner la terre sainte. Et ça, ce sera une autre histoire, un autre épisode de la Bible pas à pas. Ainsi s'achève notre émission qui traite ces temps-ci donc des couples phares de la Bible. Livre de Jocelyne Tarnot, donc couple phare de la Bible, paru chez Salvatore. Nous allons vous présenter en fin d'émission la chanson Rachel, évidemment on a parlé d'elle. Elle est extraite du musical Joseph et ses frères, que vous pouvez réécouter sur ma chaîne YouTube et là où vous écoutez la musique, Spotify, Deezer, etc. Toutes les plateformes de streaming et de téléchargement. Si vous souhaitez nous faire venir pour un conte musical, pour un concert biblique, en solo, en duo, pour une conférence de Jocelyne dans toute la francophonie autour de la Bible, n'hésitez pas à nous contacter au mail de l'émission biblepasapa@gmail.com. Très bonne semaine à toi Jocelyne.
Très bonne semaine Étienne et surtout très bonne semaine à tous.
Mon frère qui voulait me tuer pour lui avoir volé contre un plat de lentilles son précieux droit d'aînesse. Je la vis s'avancer auprès du puits où je m'étais assis. Merveilleuse bergère, mon cœur s'est embrasé. J'ai pleuré de tendresse et je l'ai embrassée. Vous êtes tous les deux ce qui me reste d'elle. Et toi, Joseph, son portrait tout craché. Elle fut ma préférée, la gracieuse Rachel. Jamais je n'oublierai l'amour que j'eus pour elle. Pour elle. Pour obtenir sa main, j'ai travaillé 7 ans qui m'ont paru un jour, tant je sentais d'amour pour la belle Rachel. Profitant de la nuit, mon beau-père m'a trompé et c'est son autre fille qu'il m'a fait épouser. Mon cœur désespéré, de tristesse à pleurer. Vous êtes tous les deux ce qui me reste d'elle. Et toi, Joseph, son portrait tout craché. Préférée, la gracieuse Rachel. Jamais je n'oublierai l'amour que j'eus pour elle.
Nous sommes tous les deux ce qui te reste d'elle.
Et toi, Joseph, son portrait tout craché.
Elle fut ta préférée, la gracieuse Rachel.
Jamais je n'oublierai l'amour que j'eus pour elle.
Nous sommes tous les deux ce qui te reste d'elle.
Et toi, Joseph, son portrait tout craché.
Elle fut ta préférée, la gracieuse Rachel. Jamais nous